De grosses transformations secouent le monde. Chris, pour vous permettre de mieux comprendre ces mouvances, la Radio Choc FM 105.1 vous propose un coup de phare quotidien sur l'actualité avec Tirne Soumaré. Écoutez Plein Feu Grand Toronto du lundi au vendredi sur Choc FM 105.1.
L'agence de la santé publique du Canada a affirmé que 100 autres personnes sont tombées malades à cause d'une contamination par salmonella, liée à un rappel d'oignons cultivés aux États-Unis, ce qui porte le nombre total de cas contaminés à 339. L'agence affirme qu'aucun décès n'a été signalé, mais que 48 personnes ont été hospitalisées. Il dit que les personnes qui sont tombées malades ont entre 3 et 100 ans et ont mangé des oignons rouges à la maison, au restaurant et en établissement. À ce sujet, nous avons Dr Aïcha Raza du Centre francophone de Toronto pour nous parler exactement c'est quoi la salmonellose.
Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105 au micro de Tirne Soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie avec Madame Aïcha Raza, avec qui nous allons discuter.
Bonjour, merci Tirne.
En gros, on aimerait discuter du salmonellose, si j'arrive bien à le dire, à raison des oignons rouges importés des États-Unis, selon l'Agence de la santé publique du Canada. On aimerait comprendre c'est quoi la salmonellose.
Oui, donc c'est une bactérie assez commune qui existe dans le système digestif des animaux et ça se transmet à nous, aux humains, par la contamination des aliments qu'on mange. Les aliments les plus communs d'être atteints de ça, c'est normalement les produits laitiers, les œufs, les viandes et volailles, crus ou bien pas bien cuits. Donc, la maladie qui peut se provoquer une fois qu'on est atteint de la salmonellose s'agit d'un empoisonnement alimentaire.
Comment elle se manifeste exactement, cette maladie?
Donc, les symptômes peuvent apparaître de environ 6 à 72 heures après avoir été exposé aux microbes. Et il s'agit principalement de la fièvre, la diarrhée, des crampes abdominales, les nausées et les vomissements. Et pour la majorité des gens, les symptômes durent entre 4 à 7 jours environ et ils disparaissent sans traitement ou antibiotiques. Par contre, chez certains groupes comme les plus âgés, les enfants et les immunodéprimés, la salmonellose peut provoquer une maladie assez sévère qui demande des soins médicaux afin de prévenir de la déshydratation.
Selon Santé Canada, environ 2 millions de Canadiens seraient victimes d'une intoxication alimentaire chaque année, on va dire 6 000 à 12 000 cas de salmonellose sont déclarés chaque année aussi. Selon toi, quel doit être le travail de sensibilisation à faire?
Donc, je sais que tout le monde serait un peu fatigué d'entendre ça, mais vraiment la meilleure prévention, c'est l'hygiène des mains. Comme on exige toujours dans ce temps de pandémie avec le COVID-19. Donc, vraiment de bien laver les mains avant et après avoir touché aux aliments et surtout bien laver toutes les surfaces que la nourriture crue a touchées. Et déjà, le gouvernement présente plusieurs formations de santé et d'hygiène pour ceux qui travaillent avec les aliments, afin de prévenir cette contamination.
Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour stopper cette maladie, on va l'appeler, ce virus ici au Canada?
Donc, c'est pas exactement quelque chose qu'on pourra vraiment stopper tant qu'on mange toujours des viandes et des produits, des agrumes. Mais c'est vraiment de prévenir la contamination. Donc, en tant que gouvernement, autre que juste la formation qu'ils font pour ceux qui travaillent dans le domaine d'alimentation, ça serait, j'imagine, les politiques et les protocoles de santé et d'hygiène chez les restaurants et chez les producteurs et chez ceux qui importent la nourriture.
Justement, les aliments contaminés par cela ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni odeur suspecte. Il s'agit principalement, j'y arrive, des œufs et des fruits qui en contiennent, aussi de la viande et de la volaille consommée crue ou insuffisamment cuit. Devons-nous revoir notre façon d'utiliser les produits dans notre cultivation?
Ça, c'est une bonne question. Comme j'ai dit, c'est une bactérie qui est présente dans le système digestif. Donc, tant qu'on mange de la viande, des volailles et des produits qui proviennent des animaux, on est toujours, disons, à risque. Donc, si c'est quelque chose qui gêne ou qui inquiète vraiment, on peut toujours limiter notre consommation de ces produits. Mais comme on voit dans ce cas-ci, ça s'est même trouvé dans les légumes, donc chez les oignons. Donc, c'est pas exactement qu'on peut tout arrêter ou tout limiter ce qu'on mange, mais juste vraiment de bien garder l'hygiène des aliments, et surtout dans le temps qu'il fait, dans le temps ensoleillé et chaud, de bien réfrigérer les aliments pour prévenir le développement des bactéries. Vraiment, c'est l'importance de la prévention et l'importance des protocoles de la santé publique et de la sensibilisation et l'éducation de la population afin qu'ils puissent prévenir et limiter le nombre de cas des deux côtés.
Sécurité alimentaire et faim dans le monde, on pense surtout aux OGM. Vraiment, est-ce vraiment nécessaire pour nourrir la planète en ce moment?
C'est une grande question au niveau des OGM. Mm-hmm. Et évidemment, ils ont été développés à base d'augmenter la production de certains aliments. Mais maintenant, quelques années plus tard, on voit qu'il y a aussi des effets négatifs sur l'environnement, des effets évidemment non prévus par ceux qui l'ont développé. Donc, je pense que ça demande un peu de réflexion au niveau des gouvernements qui le supportent.
On sait que de plus en plus de nourriture et de cela demande plus de production, hein, et des méthodes des fois pas trop respectables. Que doivent faire plutôt les autorités là-dessus?
De toute façon, on doit quand même trouver des façons de faire la cultivation qui puisse produire assez pour nourrir la population, mais qui ne nuit pas à l'environnement. Donc, au niveau du gouvernement ou des autorités qui font ces décisions, je pense que ça demande encore une revue et un peu de trouver une balance entre les deux.
L'Ontario vient juste d'officialiser la réouverture quasiment de tout. Comment le vivez-vous en tant que médecin?
Je crois que tout le monde, dans n'importe quel domaine, a éprouvé des difficultés, surtout pendant la période de confinement. Et comme médecin, mes collègues et moi ont dû changer notre style de pratique, évidemment. Maintenant, la majorité, peut-être 60 ou 70 % du travail se fait à distance, par consultation téléphonique ou bien virtuelle, en ligne. Et tant qu'on réserve toujours des places pour des visites urgentes, pour des cas qu'on ne peut pas gérer au téléphone ou en ligne. La clinique n'est pas vraiment porte ouverte, disons, comme on l'était avant, afin de limiter l'exposition des patients au virus. Parce que toujours dans ce domaine de porteurs asymptomatiques, on veut toujours limiter le contact non nécessaire.
Pensez-vous que nous sommes prêts à cette réouverture?
Pour l'instant, je crois que selon le taux de cas par jour qu'on voit, qui est à peu près stable dans les dernières quelques journées, on démontre quand même comme population qu'on peut bien respecter les précautions et les exigences de Santé Canada. Mais en vue des difficultés, disons, économiques et les difficultés sociales qu'on a tous vécu lors du confinement, je crois que c'est peut-être dans ce but qu'on essaie de reprendre et redonner un sens de vie normal qu'on ouvre de nouveau.
On sait que de plus en plus de jeunes sont infectés par la COVID-19, ce qui n'était pas le cas. Et est-ce normal de réouvrir les lieux?
Donc, au niveau des jeunes, oui, on voit plus d'infections, mais on ne voit toujours pas d'infections sévères, mm-hmm. Comme on voyait chez les gens plus âgés. Donc, la question devient, est-ce que les jeunes sont comme plutôt porteurs du virus? Mm-hmm. Mais avec, même avec ces études et en vue des cas chez les jeunes, la Société canadienne des pédiatres, surtout en tant que la rentrée scolaire, eux, ils estiment que les conséquences sociales et scolaires seront plus négatives de garder les jeunes à la maison que de les laisser aller à l'école.
Que pensez-vous des masques et des militants anti-masques où de plus en plus de personnes le refusent?
Donc, je crois que c'est une mesure assez facile à suivre et, disons, non évasive, qui pourrait prévenir une grave maladie. Donc, au minimum, ça ne fait rien de négatif au corps et au plus maximum en tant que bénéfice, ça nous prévient d'attraper ce virus. En vue de ceux qui refusent de le porter, je comprendrais la réticence s'ils refusaient, par exemple, une pilule ou une procédure à faire, mais un masque, c'est plutôt juste comme un petit tissu et un accessoire, disons, qui va faire partie de nos habits, je pense, à long terme.
Justement, en tant que médecin, comment voyez-vous le futur avec allons-nous vivre, devoir plutôt vivre avec le corona?
En tant que, disons, ligne de temps ou date de fin, je n'ai pas de prédiction, mais je pense que ça va durer encore assez de temps important, qu'on devrait quand même faire des mesures de précaution d'hygiène, de portée de masque. Et selon les experts, on estime jusqu'à temps qu'au moins on a un vaccin, mais même ça va prendre du temps, non seulement pour le développer, mais aussi de voir que c'est un vaccin sécuritaire sans effet secondaire que la population voudrait prendre.
Pensez-vous qu'un vaccin est nécessaire pour cela?
Je crois que oui. Comme on voit à chaque année pendant l'automne, on a toujours la grippe, c'est la saison de la grippe et on a donc un vaccin contre la grippe. Donc je pense que probablement du même coup, on va développer un vaccin contre ce virus. Mais ça reste à voir si ça va être quelque chose qui dure la vie ou bien si c'est quelque chose qu'il faudra reprendre de façon annuelle. Et voilà.
En tout cas, merci. Comme pour le dire, nous étions avec Dr Aïcha Raza du Centre francophone de Toronto. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur les ondes de Choc FM 105.1, docteur.
Oh, pareillement, merci, Pierre.
Merci. Vous êtes sur les ondes de Choc FM 105.1. Au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Choc FM 105.1.
Cette série originale de Choc FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 105.1 sur Facebook.